en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Personnage, personnalité, caractère, le meilleur et le pire. Le thème fut décliné durant toute l'année 2003 par l'Académie des sciences morales et politiques qui était alors présidée par M. Emmanuel Leroy-Ladurie. Chaque lundi, un académicien ou un invité extérieur présentait une communication évoquant, illustrant ce thème. Et le lundi 10 février 2003, Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, présentait une communication sur l'écrivain russe Dostoïevski, le génial écrivain de la terre russe, comme certains aiment à dire. Nous écoutons Alain Besançon.
Quand on demande à un Russe quel est le plus grand écrivain de son pays, il répond en général Pouchkine, parce qu'il est le premier en date, parce qu'il a créé la langue, qu'il a été le civilisateur qu'attendait la Russie, las de sa propre barbarie. Posé à un occidental, la même question eût fait hésiter au début du XXe siècle entre Tolstoï et Dostoïevski. Et de nos jours, je pense qu'elle se déterminerait pour Dostoïevski, parce que il est en somme le seul écrivain russe qui ait imprimé une modification profonde au champ entier de la littérature mondiale. Il n'est pas de pays au XIXe siècle où la littérature soit prise plus au sérieux que dans la Russie. Ses débuts éclatants, sous Nicolas Ier, apportaient la preuve qu'elle était capable de civilisation, capable de tenir sa place en Europe. Le romantisme allemand prisait les œuvres de civilisation et la Russie, à la grande fierté du grand critique Bielinski, en est désormais pourvue. L'écrivain se voyait chargé d'une mission, illustrer la place à part de la Russie en Europe. À lui de définir l'esprit national, ce qu'on appelle le narodnost, volkstum, qui, avec l'autocratie et l'orthodoxie, est le cadre emblématique où ce vaste empire, dynamique et encore un peu nébuleux, doit acquérir sa forme définitive et le sens de sa vocation. De cela, le pouvoir était conscient, et c'est pourquoi il favorisait la littérature. Il y avait donc en Russie un milieu littéraire, riche, varié, influent. Il existait ce qu'on appelait les épaisses revues pour recevoir les productions, et leur tirage était comparable à celui des revues européennes, 4-5 000 exemplaires. Le public, à savoir une partie de la noblesse et de l'intelligentsia, était assez cultivé, propre à s'enthousiasmer. La censure était, malgré quelques caprices, d'une exemplaire légèreté. Elle n'a empêché vraiment aucun écrivain, aucun grand écrivain, de s'exprimer. Un écrivain connu vivait assez facilement de sa plume. Les directeurs de revue lui assuraient de généreuses avances et droits d'auteur substantiels. Et le peuple, le fameux peuple auquel n'appartenaient pas les écrivains, fournissait domestiques et cuisinières à bon marché, parce que les économies pré-capitalistes et les régimes pré-démocratiques font la part belle à l'écrivain. Si Pouchkine, Tourguenieff, Tolstoï appartenaient à la bonne noblesse ancienne et relativement riche, Dostoïevski, lui, est né en 1821 dans la couche nettement inférieure des fonctionnaires qui ne gagnaient la noblesse que par le service. Son père dirigeait un hôpital militaire, et je ne sais s'il pouvait dire, comme le directeur d'hôpital dont parle Gogol, « mes malades guérissent comme des mouches ». Il fit ses études, Dostoïevski, dans une école militaire du génie. L'école militaire était, depuis Pierre le Grand, le vecteur principal de l'européanisation. Après Dostoïevski, la plupart des écrivains russes postérieurs passèrent par l'université. Il démissionna peu après avec le grade de lieutenant. Sa vocation d'écrivain était irrésistible. Il écrivait sans trêve et il n'avait que 25 ans lorsqu'il remporta son premier succès littéraire avec une nouvelle dans le genre sentimental social, Les pauvres gens. Et ce fut un succès, on le compara à Gogol. Le jeune Fédor Mikhailovitch lisait avec fureur. Sa culture philosophique et historique était faible, mais sa culture littéraire, vaste et profonde, autant qu'aucun écrivain européen de ce temps. Ses lectures étaient celles de la génération romantique. Shakespeare, Schiller, Dickens, les Russes, les Français. Il admirait Racine, ce qui est exceptionnel pour un écrivain étranger. Il se sentait sans doute en affinité avec les troubles passions des caractères raciniens. Il admirait au plus haut degré Balzac et Hugo, et on retrouve la trace des Misérables dans Crime et Châtiment et jusque dans Les Karamazov, son dernier roman. Une autre sorte de littérature française l'influença techniquement, le feuilleton, à la Eugène Sue, à la Paul de Kock. Ces feuilletons étaient très liés en Russie, et la forme de l'épaisse revue, où il paraissait en livraison périodique, obligea Dostoïevski, feuilletoniste comme Dumas, Balzac, Dickens, à maîtriser l'art du suspense, des coups de théâtre, des enchaînements passionnants, des intrigues compliquées, des rebondissements multiples, des caractères extrêmes dans le bien et dans le mal. Et l'art aussi d'écrire vite et parfois de tirer à la ligne. À la considérer dans son ensemble, la carrière littéraire de Dostoïevski n'est en rien celle d'un écrivain maudit. Ses débuts furent heureux, et à partir de Crime et Châtiment, c'est-à-dire de 1866, il jouit de la réputation d'un écrivain célèbre. Cette gloire ne cessa de croître. À la fin de sa vie, il est élu à l'Académie, section littérature, reçu régulièrement chez Pobier de Nocef, dîne chez le grand-duc Serge. L'empereur veut que ses fils soient présentés à l'illustre défenseur de la nation russe. Il dote sa veuve d'une généreuse pension. Et quand Dostoïevski mourut d'emphysème à l'âge de 60 ans en 1881, ses obsèques furent quasiment nationales. Son cercueil fut suivi par 50 000 personnes avec des délégations rangées et successives d'étudiants, d'artistes, d'écrivains, et il eut droit sur sa tombe à de magnifiques discours. Je tenais à rappeler ce premier plan glorieux pour prendre une plus exacte appréciation de l'arrière-plan dramatique de sa vie, qui fait toute sa légende, mais pas toute son histoire. Dans les accidents de sa vie, j'en vois 4 ou 5 qui ont, à divers titres, marqué son œuvre. Le premier est que son père, un homme odieux, fut un beau jour castré et assassiné par ses serfs qui ne le supportaient plus. Cela fit plus tard le bonheur de Freud et des interprétations psychanalytiques de l'œuvre. Le second est l'épilepsie, qui ne lâcha pas l'auteur jusqu'à la fin. À la fin, il la soignait avec l'alcool. Les crises étaient fréquentes, impressionnantes, surtout dans les moments difficiles. Dostoïevski fut toute sa vie un malade, ce qui n'empêchait pas son petit corps malingre d'être doué d'une vitalité prodigieuse, d'une résistance de chat et d'une puissance de travail exceptionnelle. Le troisième accident est la condamnation à mort, commué seulement au pied de l'échafaud, comme l'exigeait le code pénal, en une peine de bagne et de service militaire comme simple soldat. C'est une histoire idiote, explicable seulement par la panique politique provoquée par notre révolution de 1848. Dostoïevski fréquentait un cercle vaguement fouriériste. Ce cercle fut arrêté en bloc en 1849, Tout le monde se dénonça mutuellement et se repentit, comme il arriva dans la plupart des arrestations de ce genre jusqu'en 1917. Sauf Dostoïevski, qui n'avait rien à se reprocher, qui était monarchiste à tout craint, mais qui avait seulement lu un manifeste de Bielinski, personnage assez violemment aufklärer et réformiste. Dostoïevski accepta sa peine de grand cœur. Le bagne était dur, mais sans comparaison en inhumanité avec les goulags du XXe siècle. Il y rencontra des Polonais qu'il détesta, des criminels russes qui incarnèrent pour lui la grandeur du peuple russe, et il ne cessa jamais d'adorer le tsar bon et miséricordieux. Assez vite, ce bagnard, puis simple soldat, se vit invité à la table de la bonne société sibérienne, affamée de littérature et trop heureuse de rencontrer un écrivain connu. Il eut des amours, il finit par se marier, il put rentrer à Pétersbourg après 10 ans d'absence. Le quatrième accident fut une passion de quelques années pour une femme de fort tempérament, Apollinaria Suslova, qui le promena en Europe et laissa sa trace sur quelques caractères féminins de ses romans, femme peu commode, dominatrice et fière. Le cinquième lui tomba dessus à Wiesbaden en 1861. Il joua à la roulette et il gagna. Le démon du jeu était entré en lui et le fit descendre très bas, plus bas encore, jusqu'à frôler à plusieurs reprises l'abjection. Un beau jour, en 1871, 10 ans après, le 28 avril, à la suite d'une illumination intérieure, il se sentit guéri et ne joua plus jamais. La grande chance de Dostoïevski, veuf de sa première femme, fut son mariage à 40 ans avec une jeune fille excellente, Anna Grigorievna. Elle mit de l'ordre dans sa vie, trouvait des logements, tenait les comptes, négociait les contrats. Elle était si gentille qu'elle l'envoyait au casino quand il en avait trop envie et trouvait ensuite le moyen de réparer le désastre fatal. D'une piété sincère, elle le rapprocha de la religion, elle tâcha de s'instruire et de se mettre à la hauteur de son prodigieux époux. Elle lui fit 4 enfants, dont 2 moururent, et grâce à elle, il surmonta son deuil. Dans ses dernières années, Dostoïevski vivait à la campagne, près de Pétersbourg, bon mari, bon père, paroissien régulier, au travail de 10 heures du soir à 5 heures du matin, et donnant à peu près dans les temps la formidable copie que lui arrachait impatiemment le directeur de revue. Et cette parfaite épouse devint une veuve exemplaire qui s'attacha à publier correctement l'œuvre de son mari. Comme pour Shakespeare, comme pour Balzac, la période vraiment créatrice de Dostoïevski, son floruit, comme disaient les anciens, ne dura qu'une 15aine d'années, de 64 à 79. Auparavant, il avait déjà écrit beaucoup, des histoires sentimentales et touchantes, entre George Sand et Dickens, dans un ton social chrétien, qu'on ne relit que pour y trouver les prémices de son talent. Son originalité, son génie propre, apparaît dans une nouvelle étrange, Le sous-sol. Nietzsche y découvrit la formule du ressentiment, René Girard sa théorie du désir mimétique. Le sous-sol est la cellule germinative, la cellule souche des grands romans. J'y reviendrai. Alors ces romans, nous les avons tous lus. Ils sont 4. Crime et châtiment, à dominante psychologique, L'idiot, à dominante mystique, Les démons, à dominante politique, Les frères Karamazov, à dominante idéologique, car s'y étale la prédication de l'auteur. Alors ajoutons L'adolescent, roman raté, mais qui contient des fulgurances, et qui, comme les autres, mêle l'exploration du corps humain à la réflexion religieuse, la méditation politico-métaphysique sur la Russie et l'exposition des idées de l'auteur. Plus quelques nouvelles splendides, comme L'éternelle Marie ou Douce. Nous les avons tous lus. Il n'est pas certain que nous les ayons relus. Lire Dostoïevski est une épreuve, un bain d'émotions contradictoires, un remuement de notre tréfonds. La structure, je cite, « la structure policière du roman », explique le critique Vyacheslav Ivanov, donne au lecteur l'impression qu'il assiste à un procès longuement préparé, incroyablement complexe et pénible. Tout cela doit être accepté par celui qui, lisant les ouvrages grandioses du plus original des génies, éprouve à la fois une indicible douceur et une profonde jouissance. Comme de Balzac, on peut dire qu'il écrit n'importe comment, mais on peut dire aussi, comme de Balzac, que ce style est parfaitement adapté à sa pensée et fait corps avec son art. On a dit aussi qu'il avait introduit la tragédie dans le genre romanesque. Et effectivement, on peut tirer des parallèles convaincants entre Crime et châtiment et l'Orestie, entre Les démons et le premier Faust. Mais la catharsis ne se produit pas. On en sort plus malade à la fin qu'on en était au début. À l'instar de Racine et de la tragédie classique, Dostoïevski respecte les 3 unités. De lieu, Pétersbourg ou la ville de Haine dans le département de Haine, dans le gouvernement de Haine, d'action de temps. La première partie de l'idiot, une sorte de vaudeville incroyablement compliquée et noire, qui galope dans un climat de mauvais rêves et d'insomnie, et qui occupe 200 pages, se déroule en une demi-journée. Cette concentration sera reprise par Proust, qui donne aussi 200 pages à une matinée chez Madame de Villeparisis. Proust, qui discernait le côté Dostoïevski de Madame de Sévigné, citation, ressemble aussi au romancier russe par un autre trait, sans qu'on puisse parler d'un emprunt, mais d'une affinité de tempérament. Je veux parler du comique atroce, de la satire extrêmement méchante et drôle, cependant comme nappée et recouverte par l'ostentation de bonté et de générosité de cœur. Toutefois, Proust est dans la tradition française du caractère stable. Charlus ou Madame Verdurin ne changent pas d'un bout à l'autre dans la recherche. Or, Claudel a fait cette pénétrante remarque. Dostoïevski, je cite, « Dostoïevski est l'inventeur du caractère polymorphe. C'est-à-dire que Molière ou Racine, ou les grands classiques ont des caractères d'un seul tenant, tandis que Dostoïevski a fait une découverte en psychologie qui est l'équivalent de celle de De Vries dans le monde de l'histoire naturelle, la mutation spontanée. Voyez, une crapule, comme dans Crime et Châtiment, qui tout d'un coup devient une espèce d'ange. Dans cette imprévisibilité, cet inconnu de la nature humaine, qui est le grand intérêt de Dostoïevski. L'homme est un inconnu pour lui-même et il ne sait jamais ce qu'il est capable de produire sous une provocation neuve. » Fin de citation de Claudel. Dans une autre académie, je continuerai évidemment l'analyse littéraire. Mais dans la mienne et dans la nôtre, on attend autre chose. Berdiaïev a affirmé non sans raison que Dostoïevski était le plus grand et à certains égards le seul philosophe de la Russie. Toutefois, c'est dans ses romans, et non pas ailleurs, qu'il l'est, et qu'il faut le chercher. Or, Dostoïevski est aussi un écrivain d'idées. Il a été lui-même directeur d'épaisses revues, où il a exposé abondamment ses vues politiques et religieuses. Et la difficulté est qu'on a tendance à lire ses romans à la lumière de ses idées, ce qui égare sur le sens profond, et pousse à faire de Dostoïevski un penseur ou encore un prophète. Et je crois au contraire qu'il faut bien séparer les deux ordres, que Dostoïevski penseur appartient à un ordre considérablement inférieur à celui où se tient Dostoïevski artiste, et qu'il faut se garder de projeter sur ses idées la lumière trop vive de son art. Les idées politiques de Dostoïevski se sont fixées très tôt. Ses premiers écrits sont pleins d'attendrissement pour les pauvres gens, pour les humiliés et offensés, dans une tonalité qui est celle du socialisme chrétien à la française, qui pénétrait alors en Russie. Arrêté, il confirme sa foi monarchiste. La Russie, affirme-t-il, a toujours dû son salut à l'autocratie. Comme sous Pierre le Grand, les réformes doivent venir d'en haut. Au bagne, il adore le tsar, et il ne fut pas déçu par Alexandre II, qui abolit le servage, adoucit le service militaire, donne un self-gouvernement local, diffuse l'instruction, fonde une organisation judiciaire à l'européenne. Il n'est donc pas un réactionnaire. Monarchiste progressiste, il enrage contre la bureaucratie. On peut donc le décrire comme une sorte de populiste chrétien et conservateur qui s'inquiète du rôle grandissant de l'argent, de l'alcoolisme paysan. Il souhaite une meilleure et plus intime communication entre le souverain et le peuple, et il s'inscrit sans originalité dans le courant slavophile. Sa politique se déduit entièrement de son nationalisme. Et ce nationalisme est extrême, intense et perdu. Et pour en prendre la mesure, il faut l'analyser à deux niveaux différents. Le niveau ordinaire, celui des épaisses revues, où il est simplement un chauvin, et un niveau métaphysique qui, lui, ne se découvre que dans les romans. Dostoïevski a passé 4 ou 5 ans à l'étranger. Il l'a détesté. L'Europe est pour lui un cimetière quand elle n'est pas le siège d'un gigantesque complot contre la Russie et contre le Christ. Il exècre Paris, qu'il trouve policier. Londres l'horrifie. Les Suisses lui font horreur, encore qu'ils aient, dit-il, quelques bons côtés qui les mettent infiniment au-dessus des Allemands. Les Polonais sont invariablement des misérables et des gredins. Le plus vexant, c'est que l'Europe ignore la Russie, ne s'y intéresse pas, alors que notre auteur, où qu'il soit, à Florence, à Venise, parfaitement incurieux du paysage, ne s'intéresse qu'à elle et ne se console qu'en lisant les journaux russes. Bien entendu, et qualifié de juif tout comportement blâmable, les juifs sont un corps étranger qui exploite et abrutit le pauvre peuple russe. Le peuple russe étant le nouveau peuple élu, il ne saurait y en avoir un autre. Je cite, « Notre peuple est incomparablement plus noble, plus honnête, plus capable que les peuples d'Occident. L'Europe n'est plus chrétienne. Le catholicisme, parfaite trahison de l'esprit chrétien, est la continuation de l'Empire romain. Le protestantisme est une réaction rationaliste stérile. Le peuple russe, lui, est plein de la plus sublime pensée chrétienne. Sa vocation, je le cite, est de révéler au monde le Christ russe. C'est donc dans un dessein d'amour que la Russie englobera et annexera les peuples slaves orthodoxes, dominera les Balkans, fera flotter l'aigle à deux têtes sur Constantinople et se mettra à la tête du monde. Elle le peut parce que la Russie, affirme Dostoïevski, est synthétique. Nous avons le génie de tous les peuples, et en plus le génie russe. Donc nous pouvons nous comprendre, tandis que vous ne pouvez, nous pouvons vous comprendre, tandis que vous ne pouvez pas nous comprendre. Nous avons l'idéal russe d'universalité, d'omniconciliation, de pan-humanité. Rien moins. Ces vaticinations ne sont pas autre chose que le transfert à la Russie du dessin sublime qu'avait dessiné pour les peuples germaniques le romantisme allemand. Mais l'accent de Dostoïevski est particulier. En effet, au bagne, Dostoïevski s'était d'abord rapproché des déportés politiques polonais qui étaient plus proches de son milieu que les droits communs russes. Les dix bagnards, le lundi de Pâques 1850, se livraient à des scènes indescriptibles d'ivresse et de violence, car on leur donnait de l'alcool ce jour-là. Alors son ami polonais lui dit en français « Je hais ces brigands ». Aussitôt, Dostoïevski entra en crise et resta quelque temps dans un état second. Alors il fit une sorte de saut de la foi. Ses forces barbares étaient tout de même métaphysiquement supérieures aux Polonais et à tous les Européens parce qu'ils étaient des Russes. Et bien mieux, ces hommes étaient peut-être la partie la plus douée, la plus forte de notre peuple. La plus pure, parce que la moins adultérée par l'Occident. Et ce lundi de Pâques est le jour de naissance du métanationalisme dostoïevski. Or, sur ces entrefaites, la Russie entrait dans une période dangereuse où un régime autoritaire entreprend de se réformer. Comme toujours, l'opinion favorable au changement se divisa entre ceux qui acceptaient les réformes et ceux qui voulaient les pousser plus loin et qui refusaient la réforme au nom de la révolution. Au début des années 60, commença à se coaguler une intelligentsia révolutionnaire. La crise des années 60 engendra un nouveau type d'homme, le militant révolutionnaire idéologue, dont le type se maintiendra intact à travers plusieurs changements de doctrine, jusqu'à Lénine et aux bolcheviques. Le fondateur de cette lignée, son premier héros, était un fils de pope, héroïque et névrosé, Nicolas Gavrilovitch Tchernychevski. Alors, dans la cellule de la forteresse Pierre et Paul, il avait été arrêté, Tchernychevski composa un roman, Que faire, dont la valeur littéraire est nulle, la teneur intellectuelle indigente et l'importance morale immense. Il fondait la morale du dévouement absolu à la cause et donnait la description de l'homme nouveau, entraîné à cette morale des moyens et des fins révolutionnaires, et donc capable de se détacher complètement de la morale commune. Lénine, et particulièrement de la morale commune dans sa version chrétienne. Lénine se déclara bouleversé, mal labouré de fond en comble, transformé par ce roman. Et Trotsky, quand il écrivit en 1939 son opuscule « Leur morale et la nôtre », se montrait rigoureusement fidèle à cette leçon. En toute hâte, Dostoïevski répondit à « Que faire ?» en écrivant « Le sous-sol ». Ce court roman contient une satire de l'homme nouveau, dont il montre sous la carapace d'acier qu'il s'est donné la faiblesse, l'angoisse, les honteuses passions, l'amour secret pour l'adversaire, la cruauté envers ceux pour qui il croit se dévier. Mais ce qui est prodigieux, c'est que Dostoïevski a compris en 1863, sur la base d'une agitation de quelques étudiants déclassés et d'un mauvais roman, que quelque chose de neuf et d'infiniment dangereux était apparu en Russie et à la surface de la Terre. Une petite chaîne discontinue de complots révolutionnaires, régulièrement avortés, se noie à partir de 1863. Et dans chacun se composait une figure nouvelle de l'homme nouveau. C'est pourquoi, dans la chaîne parallèle des romans de Dostoïevski, nous les voyons réapparaître. Dans Crime et Châtiment, dans L'Idiot, dans Les Démons, dans Les Karamazov. Bien, ce sont des personnages médiocres. Mais à côté d'eux, dans la même appartenance sociologique que ces intelligents caricaturaux, surgissent les héros centraux. Raskolnikov, Terentiev, Stavrogin, Kirillov, Ivan Karamazov, qui, eux, sont porteurs d'un drame spirituel où va se jouer leur âme. Ils se dénouent dans la mort ou le néant, ou bien encore par un retour salvateur à Dieu et à la Russie. Alors se déploie tout autour le théâtre symbolique du roman dostoïevskien, avec les figures innocentes, pécheresses, touchantes de Sonia, la prostituée, en fait demi-vierge, de Maria, la boiteuse, de la petite fille violentée, qui saute autant de figures de la Russie, envahie par les démons socialistes et athées. La Russie est aussi la terre-mer humide, dangereusement assimilée à la mère de Dieu, contre laquelle pêche et que parfois baise prosterné les démons repentis. Dostoïevski a donc prévu, à partir d'une minuscule conspiration d'étudiants, celle de Netchaïev, quel pourrait être le sort de la Russie et du monde si cette cellule cancéreuse se métastasait dans tout le corps social. Et cela fait que Les Démons sont un des plus grands romans jamais écrits et le plus indispensable à l'intelligence du XXe siècle. Cependant, prenons garde. Tchernychevski, Netchaïev et parallèlement Verkhovinsky et Stavrogin sont en effet les démons qui poussent la Russie à l'abîme, à l'instar de ceux, la comparaison est de Dostoïevski, qui dans l'Évangile précipite les pourceaux dans la mer. Et toute l'œuvre postérieure au sous-sol peut être interprétée comme une tentative d'exorcisme, un vade retro angoissé. Et pourtant, si détesté soit-il, ce démonisme est secrètement préféré au monde libéral bourgeois vers lequel la Russie pourrait se diriger à l'imitation de l'Europe. Dostoïevski est fasciné par ces jeunes gens parce qu'ils sont russes, en quoi ils sont quand même préférables au libéral et occidentaliste Stepan Trofimovitch ou à Karmazinov, qui est une caricature de Tourguenieff, l'écrivain européanisé et haï. L'extrémisme dans le bien, l'extrémisme dans le mal, est un trait de la russité dont le romancier est très fier. La violence dans le mal que fait prévoir la future révolution est à préférer, malgré tout, à l'Occident de toute façon condamné. Le matérialisme bourgeois est plus détestable que le matérialisme théorique des révolutionnaires parce qu'il exprime un bien-être du créé, une satisfaction de ce monde que le romancier juge insupportable. Alors, je crois que nous sommes maintenant préparés à jeter un coup de sonde dans la religion de Dostoïevski. Dans la pléiade des grands romanciers européens, il passe pour le représentant, sinon pour le prophète du christianisme. Je crois qu'il faut y regarder de plus près. Le christianisme suppose en théorie un certain type de relation à Dieu, au Christ, à l'Église et à la nature créée. Dostoïevski n'est pas sûr de croire en Dieu. Il l'écrit dans une lettre de 1854 à sa protectrice, Madame von Wisin. Il le répète dans Les Démons où son porte-parole, Chatov, confesse croire à la Russie, à l'orthodoxie, au Christ, mais en Dieu, point d'interrogation. Il se déclare fils de son siècle et tourmenté par le doute. Mais si la foi en Dieu reste suspendue dans le vague, en revanche, selon lui, l'athéisme est mortel. Il ouvre un principe de damnation dans l'intelligentsia révolutionnaire, il détruit tout ordre social. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, dit un personnage de Crime et Châtiment, et un personnage de L'Idiot dit plus drôlement « Si Dieu n'existe pas, que devient mon grade de capitaine ?» Une chose cependant, et pire encore que l'athéisme, c'est le catholicisme. Un malheureux prince Gagarine s'y était converti et était même devenu jésuite. De quelle insulte Dostoïevski ne l'abreuve-t-il pas? Il eût mieux fait d'être athée. La parabole fameuse du grand inquisiteur désigne l'objet combiné du socialisme despotique et de sa pire forme possible, la forme catholique, plus perverse en somme que celle des révolutionnaires russes qui au moins se déclarent athées. L'amour passionné de Dostoïevski pour le Christ est en revanche attesté de bonheur. Il lui est revenu au bagne. Par le peuple, je le reçus de nouveau dans mon cœur. Quel Christ ! Comme il en parle, il n'est pas si différent du Christ de Renan. Un homme idéal, admirable, mais homme. Il n'est rien de plus profond, de plus sympathique, de plus viril, de plus parfait que le Christ, et non seulement il n'est rien, mais je le dis avec un amour jaloux, il ne peut rien être. Son Christ se place dans la série des Christs romantiques, entre le Christ de Hegel et le Parsifal de Wagner, une sorte aussi de Caspar Hauser, déchu des mondes supérieurs dans celui-ci, et dont l'icône est le prince Mishkin dans L'Idiot, témoin impuissant autour de qui se multiplient les catastrophes. Est-il ressuscité ? Dostoïevski, en contemplant le Christ mort de Holbein au musée de Bâle, avait été bouleversé par le doute. Est-il la vérité ? Je cite, « Si l'on me prouvait, poursuit-il dans cette lettre à Madame von Fizine, que le Christ est hors de la vérité et qu'il fût réel que la vérité soit hors du Christ, je voudrais plutôt rester avec le Christ qu'avec la vérité. » Parole grandiose, mais fort dangereuse, puisqu'il admet qu'il peut être beau et méritoire de suivre un imposteur. En ce cas, son culte du Christ, d'un Christ sans rapport défini, ni avec le Père, ni avec la Toute-Puissance, ni avec la vérité, ni avec l'Ancien Testament et les promesses d'Israël, peut, pourrait, en toute rigueur, être taxé d'idolâtrie. Ça frappait beaucoup Lévinas, qui voyait le christianisme à travers Dostoïevski. Et l'Église ? Bien sûr, Dostoïevski nie avec indignation qu'on puisse être un vrai chrétien, encore moins un vrai russe, en dehors de l'Église orthodoxe. Cependant, il en fait peu état, sinon pour marquer son peu d'estime pour la hiérarchie de l'Église. La véritable Église, c'est la Russie. Et dans la Russie, c'est le peuple russe. Certes, ce peuple ne connaît ni la Bible, ni l'Évangile, ni le dogme, ni les règles morales. Mais pour ce qui est du Christ, dit Dostoïevski, il le connaît et le porte dans son cœur pour l'éternité. C'est pourquoi ce Christ, en définitive, se réduit au Christ russe, l'incarnation non du Verbe de Dieu, mais de l'essence de la Russie, de son idéal qu'elle doit répandre sur le monde afin de le rénover. Les slavophiles affirmaient que la Russie était sainte à cause de la pureté de son orthodoxie. Dostoïevski pense au fond que l'orthodoxie est pure à cause de la sainteté de la Russie. Cependant, Dostoïevski n'aime pas le monde. Il projette sur lui son pessimisme gnostique, il a beaucoup lu Swedenborg. La nature est pleine de bêtes horribles qui surgissent dans les rêves et les hallucinations. Et par moments, dans l'élation qui suit la crise d'épilepsie, ou en contemplant une toile de Claude Lorrain, il entrevoit une sorte d'Arcadie lumineuse, d'âge d'or où tout est réconcilié. Le monde est ainsi scindé, comme est la Russie elle-même, pleine de péchés et de misères, mais qui mystiquement se transfigure quand on se convertit à elle. Il découle de tout cela une morale qui se calque sur les mœurs extrêmes qu'il prête au peuple russe, capable de barbarie, de violence, mais aussi de bonté et de générosité. Dostoïevski le justifie. Cette morale dévalue les commandements de la Bible et substitue les conseils évangéliques. Les commandements sont facultatifs, les conseils sont obligatoires. Voler est excusable, il est inexcusable d'être propriétaire. L'œuvre de chair, concevable dans le viol, suspecte dans le mariage. Mais surtout, le péché et la grâce sont donnés ensemble. Et d'une certaine manière, le péché est la condition de la grâce. Ce n'est pas la vertu qui prépare à la vertu, mais le crime et l'athéisme est le point de passage obligé au seuil de la conversion. Dostoïevski a porté au comble, au littéral, au vertigineux et au faux, finalement, la fameuse parole de Luther, « Simul peccator et justus ». L'héritage posthume d'un grand homme contient au point de vue de l'exactitude du vrai et du faux. Le vrai Dostoïevski me paraît avoir été correctement perçu en Russie. Comme on le peut penser, Lénine le vomissait, il le considérait comme une saleté réactionnaire. Et le plus grand auteur russe fut très logiquement, en Union soviétique, un auteur interdit. En revanche, la culture brillante de l'âge symboliste, juste avant la guerre, avant la Révolution, professait pour lui un culte équivoque. Il était accordé à son apocalyptisme et à son nationalisme messianique. Dostoïevski haïssait la Révolution, mais en même temps, il décourageait de résister sérieusement, c'est-à-dire politiquement, à son œuvre de destruction. Ce monde ne méritait pas d'être défendu. Quand Berdiaïev, après la guerre, après la Révolution, écrivait que le bolchevisme avait eu au moins ceci de bon qu'il avait empêché la Russie de suivre le chemin de l'embourgeoisement européen, quand à la fin de sa vie il reprit un passeport soviétique, il n'était pas infidèle à l'esprit de Dostoïevski. L'enfer russe, que selon lui seul un russe peut comprendre, est tout de même préférable à la satisfaction suisse. L'enfer est un lieu de mauvais anges, mais d'anges, et donc en soi supérieur à la simple terre où les hommes tâchent de vivre. Et en plus, on y souffre, ce qui est très bien. En relisant Dostoïevski, j'ai été frappé de voir combien de ces thèmes ont été repris par Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, au goulag, n'a pas adoré le pouvoir. Il l'a même combattu au nom d'une idée fort concrète de la vérité et de la justice. Il n'a pas haï l'Occident pendant son exil, mais il n'a eu aucune estime pour lui, ni aucune curiosité pour l'Occident, et n'a pas fait l'effort d'apprendre l'anglais. Il n'a eu de pensée que pour la Russie, son histoire, son essence, son destin, persuadé qu'aucun occidental ne pouvait la comprendre. Il a admiré Stolypine, y voyant à la façon de Dostoïevski le modèle d'une union du peuple avec le pouvoir d'en haut, intelligent et fort. Comme son prédécesseur, il compte sur le peuple, sur les Zemstvo. Il l'appelle au travail, à la mise en valeur de la Sibérie. Comme Dostoïevski, il veut réunir, dans l'amour toujours, l'Ukraine et la Biélorussie. Et il ne comprendra pas la singularité persistante du peuple juif. Il ne conçoit pas qu'un Russe puisse être chrétien en dehors de l'église du patriarcat de Moscou. Le vrai point commun entre ces deux hommes est celui-ci. C'est que le problème clé devant lequel se trouve la Russie n'est pas, selon eux, un problème politique, mais un problème national, moral, religieux. Ou encore, le national, le moral, le religieux peuvent et doivent se substituer aux politiques. Alors évidemment, la question est de savoir si l'on peut faire l'économie de l'ordre politique. Tournons-nous vers l'Occident. La fortune de Dostoïevski repose-t-elle sur une illusion ? Les bons connaisseurs de la Russie ne se sont pas laissés leurrer par le mirage. Mais ceux qui ne connaissent pas les coulisses et les arrière-plans russes de son œuvre, se sont-ils laissés blouser par un Dostoïevski imaginaire ? Eh bien, je ne le pense pas. Laissons de côté l'influence colossale de Dostoïevski sur la littérature mondiale. Faut-il, pour s'en tenir au seul domaine français, citer Léon Blois, Mauriac, Bernanos, Claudel, mais aussi Proust, Gide, Jouhandeau, Simenon et pratiquement tout le monde. Concentrons-nous sur son influence spirituelle. La partie de son politique, de son œuvre est considérée comme une affaire russe qui n'intéresse pas l'Occident, c'est essentiellement le penseur religieux qui a été pris au sérieux. Melchior de Vogüé, notre éminent confrère, salue en 1886, dans le roman russe, une sorte de bouée de sauvetage capable d'insuffler dans notre littérature si tristement desséchée le supplément d'âme qui lui fait si tristement défaut. Il trouve évidemment Dostoïevski un peu fort de café, mais il reconnaît en lui l'interprète autorisé du livre régulateur, l'Évangile. Il ne remarque pas que ces Russes, dont il admire l'originalité, avaient été nourris de Buchez, de Leroux, de Lamennais, de Sand et de toute une littérature sociale chrétienne, un peu exaltée, qui en France était largement oubliée, y compris par de Vogüé, mais qui en Russie, lue avec retard, était encore fraîche et stimulait les écrivains. Et la Russie lui renvoyait dans un miroir grossissant, éblouissant, des thèmes qui avaient eu l'horreur et revenaient maintenant avec le décalage d'une génération. La trop forte liqueur dostoïevskienne a surtout été appréciée après les grands désastres de la Première Guerre et de la Seconde aussi, Guerre mondiale, parce qu'il devient accordé à un monde en désarroi. Karl Barth, le grand théologien Karl Barth, dans son livre inaugural de 1918, l'Épître aux Romains, se réfère constamment à Dostoïevski, aux côtés de Kierkegaard et de Nietzsche, les trois prophètes des temps de catastrophe. La théologie négative de Barth récuse toute religion, y compris la chrétienne, au profit d'une foi dont la teneur est difficile à expliciter. Et c'est pourquoi il emprunte littéralement à Dostoïevski le paradoxe qui fait de la négation de toute croyance la propédeutique de cette foi et de l'extrême du mal l'introduction à l'espérance eschatologique. Je cite Barth, « Le cri du révolté contre Dieu » est plus proche de la vérité que les artifices de ceux qui entendent le justifier. En 1959, en pleine hégémonie marxiste sur la France, le père de Lubac conclut sur Dostoïevski son drame de l'humanisme athée. Il le dresse dans un grandiose parallèle avec Nietzsche, son frère jumeau et son pôle opposé. Et la citation toujours opportune de Dostoïevski vient avec abondance soutenir sa thèse et enrichir la haute théologie du futur cardinal. J'en dirai autant, avec moins de prudence que chez le père de Lubac, de Romano Guardini, du père Tillette, de René Girard, pour qui il ne fait pas de doute que Dostoïevski est un penseur chrétien de toute une première importance et même qu'il a compté dans le développement personnel de leur foi, sans que sa rectitude soit sérieusement déviée par ses hyperboles. Ont-ils mal lu? N'ont-ils pas vu où menait son anomisme, voire son antinomisme, sur-chrétien ou parachrétien? Ou bien peut-on simplement constater que les grands textes supportent plusieurs sens et plusieurs lectures? Dostoïevski, grand homme, c'est pour ça qu'il rentre dans notre année, échappe de tous côtés aux limitations que son temps, ses passions, son pays lui ont imposées. Il échappe aussi à la description où je l'ai enfermé. Ses délires, ses mensonges, ses folies deviennent dans un autre climat et sous d'autres regards sa vérité et sa sagesse. Je vous remercie.
C'était Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, le lundi 10 février 2003. Alain Besançon présentait une communication sur l'écrivain russe Dostoïevski. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte et ceux des autres communications sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Je vous en rappelle l'adresse, www.asmp.fr. Vous pouvez également les écouter quotidiennement sur Canal Académie.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.